Bienvenue sur RFI, 9h à Port-au-Prince, il est 14h en temps universel. Une demi-heure consacrée à l'actualité d'Haïti et des Amériques. Nous appellerons dans quelques minutes le rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste qui se désole de voir Haïti au bord de l'effondrement. À suivre aussi un entretien avec Bernardo Caacciol, défenseur des droits du peuple Kekchi au Guatemala. Il avait été injustement emprisonné il y a quelques années, mais malgré cela, il a décidé de poursuivre son combat. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous parlerez de ces experts mandatés par l'ONU qui appelle le gouvernement français à garantir l'accès à l'eau potable en Guadeloupe.
Des experts qui ont travaillé à la demande du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Nous entendrons tout à l'heure notre consoeur de la première Guadeloupe, Florence Perroumal.
Benoît Ferrand, on vous retrouve dans 25 minutes. Merci à tous d'être avec nous. Et avant cela, on va faire le point sur l'actualité internationale. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On commence par l'OTAN qui souffle aujourd'hui ses 75 bougies.
Oui, née dans les décombres de la Seconde Guerre mondiale, l'Alliance a aujourd'hui 75 ans. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord a été renforcée par la guerre en Ukraine, mais la possibilité que Donald Trump devienne à nouveau président des États-Unis inquiète ses pays membres. À Christophe Paget, il faut dire aussi qu'en 75 ans d'histoire, eh bien, la relation États-Unis l'OTAN a plus d'une fois été marquée par des crises.
Oui, lorsque l'OTAN est créée après la Seconde Guerre mondiale, il s'agit pour les Français et les Britanniques d'éviter que Washington ne se détourne de l'Europe, la laissant seule face à l'URSS. Rapidement, le rôle des États-Unis devient majeur, moyens financiers, matériels. Les premières tensions arrivent lorsque Paris demande à ses alliés de financer son effort militaire durant la guerre d'Indochine. Les États-Unis veulent avoir un droit de regard sur l'utilisation de leurs armes. Avec la fin de la guerre froide, ils ferment des bases militaires en Europe. Mais suite au 11 septembre 2001, l'OTAN invoque pour la première fois l'article du traité prévoyant que l'Alliance aide un membre attaqué. En 2017, Donald Trump devient président des États-Unis. Il parle d'une alliance obsolète, reproche régulièrement aux pays membres de ne pas payer leur part. En février dernier, le candidat Trump parlait même de laisser la Russie attaquer les membres mauvais payeurs. S'il est de nouveau élu, les Européens craignent un arrêt du soutien américain à la guerre en Ukraine et un nouveau désengagement en Europe. Alors que 100 000 soldats américains y sont aujourd'hui stationnés, certains dans le cadre de l'OTAN, d'autres non, et que la dissuasion nucléaire américaine est toujours considérée comme essentielle pour protéger les Européens.
Christophe Paget, merci à vous. Réunis actuellement au niveau ministériel à Bruxelles, l'OTAN suit de près, bien sûr, la situation en Ukraine. L'Ukraine, où les autorités ont annoncé au moins 5 morts et une dizaine de blessés. Bilan des frappes russes la nuit dernière. Elles ont pris pour cible la région de Soumy, mais surtout Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé une attaque méprisable. À Taïwan, le dernier bilan du tremblement de terre de mercredi, le plus dévastateur depuis 25 ans sur l'île. Il s'élève à 9 morts et 1 millier de blessés. Les sauveteurs multiplient les efforts pour dégager des dizaines de personnes bloquées dans des tunnels. Le séisme a détruit des routes et provoqué de nombreux éboulements. Le parti libéral démocrate au pouvoir au Japon déclare qu'il va prendre des mesures de discipline envers 39 parlementaires dans un scandale lié au financement politique. Direction maintenant les États-Unis où l'Oregon fait marche arrière, 3 ans après avoir dépénalisé toutes les drogues. Cet État, considéré comme l'un des plus progressistes en la matière, va repénaliser la possession de petites quantités de stupéfiants. Les précisions de notre correspondante Loubna Anaki.
La dépénalisation avait été adoptée en 2020 par référendum. L'idée était de traiter les usagers de drogue comme des malades plutôt que des délinquants en rendant légale la possession de petites quantités de drogue et en diminuant les peines prévues pour les affaires de stupéfiants. Mais pour les élus de l'État de l'Oregon, les résultats espérés ne sont pas là. Le nombre de morts par overdose est en augmentation, notamment à cause de l'épidémie de fentanyl. La gouverneure démocrate a donc signé une loi pour rendre à nouveau illégale la possession de petites quantités de drogue comme les méthamphétamines et l'héroïne, un délit qui sera désormais passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois. Le texte prévoit toutefois de proposer un séjour en désintoxication au lieu de ce séjour en prison. La nouvelle loi devrait entrer en vigueur en septembre prochain. Pour les partisans de la dépénalisation, ce retour en arrière marque, je cite, un retour vers une guerre ratée contre la drogue. Il faut savoir que l'Oregon est deuxième au classement des problèmes liés à la drogue, mais est loin derrière quand il s'agit d'accès au traitement. Loubna Anaki, New York, RFI.
En Afrique du Sud, l'ancienne présidente du Parlement, inculpée de 13 chefs de corruption et blanchiment, Nosiwe Mapisa Nankula, est accusée d'avoir perçu d'importantes sommes. C'était en marge d'un contrat militaire quand elle était ministre de la Défense entre 2014 et 2021. Cette affaire a refait surface en Afrique du Sud à l'approche d'élections cruciales pour l'ANC au pouvoir, dont elle est une figure. La Somalie décide d'expulser l'ambassadeur d'Éthiopie à Mogadiscio et de fermer deux consulats de ce pays, pays qu'elle accuse d'interférer dans ses affaires intérieures. C'est un nouvel épisode dans les tensions entre ces deux voisins dans la Corne de l'Afrique. En France, les polluants éternels, encore appelés PFAS, font débat. Les députés ont commencé l'examen d'une proposition de loi visant à restreindre la fabrication et la vente de produits qui en contiennent. Ils sont très nombreux, poêles en téflon, emballages alimentaires, textiles, automobiles. Mais ce matin, les députés ont exclu du périmètre de la loi les ustensiles de cuisine. Ces substances, les polluants éternels, doivent leur surnom à leur cycle de vie très long et pour certaines à leur effet néfaste sur la santé. Emmanuel Macron était ce matin en déplacement dans la banlieue nord de Paris. À l'approche des Jeux Olympiques, il a inauguré le centre aquatique de Saint-Denis. Ce bassin accueillera l'été prochain les épreuves de natation synchronisée, de plongeon et de water-polo. Le président a assuré que malgré les menaces d'attentats, l'organisation de la cérémonie d'ouverture des Jeux sur la Seine restait le scénario privilégié. Emmanuel Macron a aussi évoqué la chanteuse francophone la plus écoutée au monde, la franco-malienne Aya Nakamura. Elle parle à bon nombre de nos compatriotes. Je pense qu'elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux, a-t-il expliqué. Des décennies après, le dossier des harkis et supplétifs algériens de l'armée française pendant la guerre d'Algérie, ce dossier refait surface. La France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour leurs conditions de vie à leur départ d'Algérie dans les années 1960 et 1970. Des conditions incompatibles avec le respect de la dignité humaine, dit la Cour. Musique maintenant avec Bellar, le nouvel album de la percussionniste américaine Sheila E., un album hommage aux légendes de la salsa, Hugo Casalino.
La musique latine aujourd'hui, c'est surtout le reggaeton, la bachata ou la cumbia. Mais la salsa, qui elle aussi a connu son heure de gloire, n'a pas dit son dernier mot. Et cette fois-ci, c'est une légende de la percussion qui s'en est chargée, Sheila E., celle qui a joué avec George Duke, Marvin Gaye, mais surtout connue pour être l'égérie rythmique de Prince milieu des années 80. Sheila E. a décidé de rendre hommage aux légendes de la salsa à travers un nouvel album Bailar qui doit sortir cette fin de semaine. Un album où l'on retrouve entre autres le gentleman de la salsa, le chanteur portoricain Gilberto Santa Rosa dans un vibrant hommage à Tito Puente. À la programmation musicale de RFI, on a retenu son hommage à la reina de la salsa Celia Cruz avec la reprise de Bemba Colora, une chanson contre le racisme, un titre franchement incroyable. Et comme dirait Celia Cruz, azúcar.
Voilà, Bella, c'est le nouvel album de Sheila E. Un tout dernier mot de football, Paris Saint-Germain-Lyon, c'est l'affiche de la finale de la Coupe de France qui sera disputée le 25 mai à Lille. Hier soir au Parc des Princes, le PSG s'est qualifié aux dépens de Rennes, battu 1-0, but Anne d'un certain Kylian Mbappé. Voilà, c'est à vous.
Merci Gilles Moreau et merci à tous d'être avec nous.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
La transition politique piétine en Haïti et la situation sécuritaire et humanitaire ne cessent de se dégrader. Nous sommes en ligne, comme chaque jeudi, avec notre confrère du Nouvelliste. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Anne.
Vous êtes le rédacteur en chef du journal et vous écrivez aujourd'hui « Nous sommes à moins une de l'effondrement ».
Effectivement, c'est le sentiment qu'on a à Port-au-Prince. Tous les secteurs sont à... attaqués, tous les secteurs sont affectés. On ne sait pas si c'est le secteur hospitalier qui va s'effondrer définitivement, parce que beaucoup d'hôpitaux ont été attaqués, des pharmacies brûlées, les cliniques ne peuvent pas fonctionner. Le Nouvelliste fait sa une ce matin avec le service de dialyse du principal hôpital de Port-au-Prince qui n'est plus fonctionnel et des patients sont en train de mourir. Il y a une rareté de médicaments. Définitivement, on ne sait pas si c'est la police qui va faillir, si c'est la santé, si c'est le système bancaire, mais on est à moins une de l'effondrement.
On le comprend, le pays est asphyxié en ce moment, notamment à cause de la fermeture du port et de l'aéroport. Et le Nouvelliste, votre journal, constate qu'aujourd'hui, en fait, seule la contrebande permet une bouffée d'oxygène.
Effectivement, ce sont les seuls produits qui rentrent régulièrement et presque normalement sur la région métropolitaine. Et les 8 installations portuaires sont à l'arrêt ou bien reçoivent que sporadiquement des marchandises et du carburant. C'est très peu de choses. L'aéroport est fermé depuis un mois. Il n'y a pas de perspective d'ouverture. Seuls les produits qui passent la frontière à travers la République dominicaine arrivent par camion à Port-au-Prince. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est l'essentiel de ce qui arrive et qui fait fonctionner l'économie.
Et pendant ce temps-là, eh bien, la transition politique patine toujours et n'avance pas.
Toujours. Ce matin, on n'a toujours pas de nouvelles ni du Conseil présidentiel de transition. Ils doivent signer entre eux un accord politique et le rendre public. Ce n'est pas encore le cas. Créer ce conseil et le publier dans le Moniteur pour qu'on puisse avancer. Il faut dire que les deux parties, chacune pour ses raisons, et perdent du temps. La situation sécuritaire continue de se dégrader et les jours passent.
Merci beaucoup Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Je renvoie nos auditeurs aussi à votre site, lenouvelliste.com, notamment parce que la ligne s'est un petit peu dégradée à un moment, donc on n'a pas pu suivre toutes vos explications. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous retrouve jeudi prochain. Malgré cette situation catastrophique que l'on évoquait à l'instant en Haïti, la République dominicaine voisine continue d'expulser massivement des Haïtiens et Amnesty International s'en indigne. C'est ce qu'explique Christian Jiménez. Il est responsable de la région des Caraïbes pour l'ONG.
Lors de nombreuses opérations contre les migrants, la police utilise la violence de façon excessive. Cela se passe dans une impunité totale. Il n'y a aucune enquête, aucune condamnation des responsables. Nous avons documenté des cas où des policiers ont forcé en pleine nuit les portes des foyers où vivaient des Haïtiens. Et il y a aussi eu des opérations policières dans des hôpitaux où se trouvaient des Haïtiennes enceintes. Nous appelons donc le gouvernement de la République dominicaine à mettre fin à ces pratiques et ces expulsions. La violence et les besoins humanitaires en Haïti sont tels que ces personnes en danger ne doivent en aucun cas être renvoyées chez elles. Or, le gouvernement dominicain a lui-même publié un rapport en décembre dernier, selon lequel, en 2023, plus de 250 000 personnes ont été expulsées de la République dominicaine vers Haïti. Nous considérons qu'il s'agit d'une politique raciste que le gouvernement a mis en place ces dernières années dans l'objectif d'expulser un maximum d'Haïtiens.
Le responsable de la région des Caraïbes de l'organisation Amnesty International. RFI. The World's Voices. La presse américaine fait ses gros titres aujourd'hui sur le coup de téléphone prévu tout à l'heure entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou. Trois jours après la mort de 7 travailleurs humanitaires à Gaza, ils ont été victimes d'une frappe israélienne que le gouvernement israélien présente comme non intentionnelle. Un Américain fait partie des victimes et à en croire la presse des États-Unis, Marine de la Moissonnière, le président Biden est très en colère.
Oui, selon le New York Times, la colère mais aussi la frustration de Joe Biden par rapport à l'attitude d'Israël dans cette guerre n'a jamais été aussi forte. Pourtant, comme le fait remarquer le Washington Post, son soutien politique inébranlable à Israël ne devrait pas changer. Depuis deux mois, ses critiques sont de plus en plus dures mais ne s'accompagnent d'aucune pression concrète, d'aucune mesure de rétorsion, insiste le quotidien. Les États-Unis exigent que le pays laisse entrer de l'aide humanitaire à Gaza et dans le même temps continue de lui fournir des armes.
Une politique confuse qui fait perdre des soutiens à Joe Biden, notamment au sein de la communauté musulmane.
Oui, comme le rapporte le Washington Post, des leaders musulmans ont refusé l'invitation de la Maison-Blanche à venir célébrer l'Iftar, réclamant à la place une réunion politique. Comment peut-on parler de famine tout en mangeant du pain et de la viande, s'indigne dans les colonnes du New York Times le docteur Ahmad qui était à Gaza en janvier. Finalement, une réunion d'une heure a eu lieu mardi soir, raconte le journal. Le docteur Ahmad a remis à Joe Biden une lettre que lui a écrite une petite Gazaouie de 8 ans qui a perdu toute sa famille. Puis le médecin est rapidement parti. Comme il l'a expliqué au Washington Post, le but de cet entretien, c'était en réalité de dire à la communauté musulmane qu'elle ne doit pas attendre de grands changements dans la réponse de l'administration Biden.
Des critiques aux États-Unis et puis l'administration Biden fait l'objet aussi de reproches venus de Caracas. Hier, le président Maduro a dénoncé l'existence de bases militaires américaines secrètes dans l'Essequibo, ce territoire de 160 000 km² riche en pétrole que se disputent le Venezuela et le Guyana.
Le président Irfan ne gouverne pas le Guyana. Le Guyana est gouverné par le commandement sud des États-Unis, la CIA et ExxonMobil. Je n'exagère pas. Ils contrôlent le Parlement, les partis politiques, le gouvernement et l'opposition. Ils contrôlent toutes les forces de l'ordre. Et nous avons des informations vérifiées selon lesquelles, sur le territoire de l'Essequibo, temporairement administré par le Guyana, ont été installées des bases militaires secrètes du commandement sud des États-Unis, des cellules militaires du commandement sud et des cellules de la CIA pour préparer des agressions contre les populations du sud et de l'est du Venezuela et pour préparer une escalade contre le Venezuela.
Et pour préparer une escalade contre Venezuela.
Nicolas Maduro, qui s'exprimait lors de la proclamation d'une loi affirmant la souveraineté de Caracas sur l'Essequibo et qui fait de ce territoire un nouvel État du Venezuela. Cette décision, elle a pu être lue par certains observateurs comme liée à la campagne électorale en cours. Une présidentielle est prévue à la fin du mois de juillet au Venezuela. Le Mexique aussi votera dans quelques mois, le 2 juin prochain et à quelques jours du premier débat politique qui opposera les candidats Xochitl Galvez, représentante de la droite. Elle se retrouve éclaboussée par un scandale. Vous entendez en ce moment son fils qui a dû présenter des excuses après avoir été filmé en train de frapper les vigiles d'une boîte de nuit. Il était manifestement ivre, Marine de la Moissonnière.
Oui, et peu importe si la scène date d'il y a un an, Juan Pablo Galvez a quitté le poste qu'il occupait au sein de l'équipe de campagne de sa mère. Comme le raconte le journal mexicain El Universal, la vidéo a été diffusée au Sénat par une élue de gauche. Une polémique qui a suscité de nombreuses réactions, et notamment de la femme du président Andrés Manuel López Obrador, lui-même de gauche. Elle a pris parti pour Juan Pablo Galvez, comme le souligne La Razón. Sur sa page Facebook, elle a estimé qu'il ne fallait pas utiliser les proches d'une personnalité politique pour tenter de lui nuire. Dans une famille, chacun est responsable de ses erreurs ou de ses victoires, selon elle. L'épouse d'AMLO qui a également demandé aux candidats à la présidentielle et à leurs équipes de se montrer fair-play durant la campagne. Pour bien comprendre cette prise de position étonnante, eh bien, il faut dire que Xochitl Galvez a, elle, accusé les enfants du couple ainsi que leurs neveux de corruption dans le cadre des travaux du Train Maya, projet phare d'AMLO, des accusations démenties hier par le président, comme le rapporte La Jornada.
Merci Marine de la Moissonnière. L'actualité sur le continent, c'est aussi cette mobilisation en Argentine, manifestation de la fonction publique, afin de dénoncer une vague de licenciements massifs décidée par Javier Milei la semaine dernière. 11 000 fonctionnaires au moins ont été licenciés et hier, des centaines d'entre eux ont essayé d'entrer simultanément et pacifiquement sur leur lieu de travail en signe de protestation. Reportage à Buenos Aires de notre correspondant Théo Conscience.
Devant le ministère du Travail, des agents de la police fédérale bloquent l'accès du bâtiment aux fonctionnaires et aux ex-fonctionnaires venus manifester.
Mercredi à 17h30, sans préavis, j'ai reçu un mail de licenciement. En ce moment, j'ai un traitement oncologique, donc si je perds ma mutuelle, ça va être un gros problème pour moi.
Il y a de l'inquiétude, mais aussi de la colère dans les larmes qui s'accumulent au coin des yeux de Wanda Pérez. Cette conseillère en réinsertion professionnelle vient d'être licenciée après plus de 20 ans dans la fonction publique.
Nous n'avons pas été prévenus, nous n'avons pas été indemnisés, même pas quelques mois de salaire, le temps de retrouver un autre travail.
Rien qu'au ministère du Travail, plus de 500 personnes ont été licenciées la semaine dernière. Devant le bâtiment, les représentants syndicaux se relaient au micro.
En plus de nous licencier, ils veulent nous stigmatiser. Ce qui doit être clair, c'est que nous défendons des postes de travail, mais aussi les politiques publiques qui existent grâce à notre travail et à nos efforts.
Dans la foule, les chants appellent à la grève générale. La police laisse finalement passer les représentants syndicaux et les employés licenciés qui entrent la larme à l'œil et dans le calme pour se réunir en assemblée et décider de la suite à donner au mouvement social. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Notre dossier du jour à la rencontre d'une figure des droits humains au Guatemala, Bernardo Caracol. Il se bat depuis des années pour les droits du peuple Maya Kekchi. Leur vie est perturbée par la construction de centrales hydroélectriques sur leur terre, le long du fleuve Cahabon, dans le nord du pays. L'eau, détournée vers les centrales, manque aujourd'hui cruellement aux cultures. Elle entraîne aussi la mort de nombreux animaux du fleuve. Et pourtant, malgré des pressions, malgré 7 années passées en prison, Bernardo Caracciol poursuit son combat. Il en a parlé à Christophe Paget.
Bernardo Caracciol, bonjour.
Buenos días.
D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter le peuple Maya Kekchi?
En Guatemala, existimos 23 pueblos.
Au Guatemala, nous sommes 23 peuples mayas avec 23 langues. J'appartiens à l'un d'entre eux, le peuple Maya Kekchi. Nous sommes plus d'un million de personnes dans le nord du pays, les provinces de Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal et Quiché.
Baja Verapaz, Izabal et Quiché.
Vous êtes instituteur depuis 18 ans. Comment avez-vous commencé à défendre le peuple Maya Kekchi?
Ce
n'était pas normal de voir des machines déplaçant des pierres, détournant un fleuve. On s'est donc réunis avec toutes les communautés et on s'est demandé... qu'est-ce qui se passe avec le fleuve? Nous avons enquêté et compris que c'était des centrales hydroélectriques, 6 centrales, qui étaient en train d'être construites sur le fleuve Cahabon. La plupart appartenaient à l'entreprise Cobra ACS de Florentino Pérez, le président du club de football Real Madrid. Nous avons dénoncé ce qui se passait, mais dernièrement, on nous a dit qu'ACS était maintenant entre les mains d'une entreprise française, Vinci. Ce qui est important, c'est que les Français comprennent que Cobra ACS a commis des crimes contre l'environnement au Guatemala. Elle a privé d'eau des milliers de familles du peuple Maya Kekchi. Elle a appauvri beaucoup de ces familles qui ont dû partir dans d'autres régions du Guatemala, mais aussi à l'étranger, le Mexique, les États-Unis. À cause de cet appauvrissement et parce que nous ne pouvions plus cultiver notre nourriture, elle nous a mis en grand péril. Et en plus, les êtres qui vivaient dans l'eau, les poissons, les crabes, les escargots, sont morts. Ce sont des crimes graves qui pourraient être considérés comme des crimes contre l'humanité.
Bernardo Caracciol, vous avez été arrêté et incarcéré pendant plus de 4 ans.
Nous avons commencé à revendiquer nos droits parce que nous n'avions été ni consultés ni informés. Nous avons manifesté pacifiquement et les cours de justice ont suspendu des licences de centrales hydroélectriques, ce qui a mis en colère toutes les chambres de commerce, toutes les associations hydroélectriques, et elles ont lancé une campagne de diffamation et de calomnie contre moi qui a abouti à 2 mandats d'arrestation. Je n'ai pas pu échapper au second, car ils m'ont accusé de délit aggravé, le vol de 2 rouleaux de câbles d'une des entreprises hydroélectriques et de détention illégale. J'ai été condamné à 7 ans de prison. Je suis sorti au bout de 4 pour bonne conduite, mais le reste de la sentence est toujours en suspens jusqu'en 2027. Ce qui ne me pose pas de problème, parce que je ne suis pas un criminel ou un délinquant. Tout ce que je fais, c'est défendre les droits de mon peuple. Et ce que je fais aujourd'hui en Europe, c'est dénoncer l'emprisonnement injuste, demander que les entreprises respectent les peuples indigènes et qu'elles ne criminalisent pas les défenseurs des droits humains. Pendant 36 ans, le Guatemala a connu une guerre lancée par le gouvernement contre les communautés indigènes. Donc ce n'est pas nouveau pour elles d'être persécutées par ceux qui veulent leur voler leurs terres, leurs ressources naturelles. 250 000 personnes ont été tuées pendant cette guerre. Ça s'est terminé en 1996 et ils ont arrêté d'assassiner les leaders sociaux. Mais maintenant, il y a une nouvelle formule, la torture en prison que j'ai subie. Et aujourd'hui, beaucoup de leaders sociaux sont enfermés parce que nous réclamons les droits sur les fleuves, les lacs, les montagnes. Par exemple, sur le territoire Maya Kekchi, en plus des barrages hydroélectriques, il y a aussi une mine qui appartient à la Russie et à la Suisse. Et je pourrais continuer à citer les industries d'extraction dont la majorité viennent d'Europe.
Qu'est-ce que vous demandez lors de cette tournée européenne en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en France ?
Il s'agit de dénoncer ces injustices, faire entendre notre voix pour que les entreprises européennes respectent les peuples indigènes et qu'il y ait une loi qui sanctionne drastiquement les entreprises qui ont violé les droits des peuples indigènes. Par exemple, si le gouvernement français ou son système de justice constate que des entreprises françaises violent les droits de l'homme dans un pays du monde, eh bien qu'elles soient sanctionnées. Il faut que ces lois existent et donc il est important que les citoyens de France ou de quelques pays que ce soit dans le monde nous écoutent.
Ou en cualquier pays del mundo que nos escuchen.
Le militant des droits humains guatémaltèque Bernardo Caracciol, il répondait à Christophe Paget.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
Des experts mandatés par les Nations Unies exhortent le gouvernement français à garantir l'accès à l'eau potable en Guadeloupe.
Et parmi ces experts qui ont travaillé à la demande du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'Espagnol Pedro Aroro Agudo, qui aurait dû participer en novembre dernier à une conférence sur l'eau en Guadeloupe. Conférence annulée au dernier moment. Florence Perroumal.
À l'époque, certains avaient parlé de problèmes de logistique. D'autres avaient évoqué de supposées pressions venues d'en haut. Finalement, personne n'a jamais eu le fin mot de l'histoire sur les raisons de l'annulation de ce débat sur l'eau organisé par l'Université des Antilles. Mais aujourd'hui, le sujet refait surface. Ces experts indépendants, mandatés par le Conseil des droits de l'homme, l'évoquent dans un communiqué exprimant leur inquiétude. Selon eux, il s'agirait d'une censure visant à faire taire les voix critiques, y compris celles des défenseurs des droits humains, des lanceurs d'alerte et des scientifiques. Dans ce même communiqué, ils dressent un sombre tableau de la crise de l'eau. Réseaux vétustes, canalisations fuyardes, stations d'épuration défectueuses et logiciels de facturation défaillants. Tout cela serait l'héritage de décennies de négligence de l'État, des collectivités locales et des opérateurs privés. Enfin, les experts estiment que les coupures fréquentes sur le réseau peuvent gravement polluer l'eau. Une théorie rejetée par le gouvernement français qui pointe un manque de preuves. La France, qui est appelée une nouvelle fois à garantir l'accès à l'eau potable en Guadeloupe.
Direction la Guyane, avec un tout autre sujet. C'est, paraît-il, une première en France. Une vente exceptionnelle de bijoux aujourd'hui et demain dans un grand hôtel de Cayenne. Des bijoux saisis dans le cadre d'enquêtes pénales. Alain Comeil est le patron de la Direction nationale d'intervention domaniale. Intervention et domaniale au pluriel. Il est bien sûr au micro de la première Guyane.
C'est une vente inédite et inédite au niveau français parce que c'est la première fois que nous organisons une vente dédiée à l'or et ça prend tout son sens dans la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane. L'idée, c'est d'organiser une manifestation citoyenne et républicaine, citoyenne parce qu'on souhaite que le plus de monde possible puisse venir, et républicaine parce que c'est une politique publique que nous mettons en exergue, c'est la lutte contre l'orpaillage illégal.
Est-ce qu'on a une estimation chiffrée des ventes ?
Au moins 300 000 euros, c'est ce que l'on attend de cette vente. C'est le jeu des enchères qui fera le prix. Mais on a 450 louvres. On est évidemment au-dessous des cours de l'or. Donc il y a des bonnes affaires à réaliser. Donc j'invite tous les Guyanais à venir. Une belle manifestation avec une belle cause. Et c'est aussi l'occasion pour nous de saluer tout le travail des services de justice, le travail des services enquêteurs, les policiers, les gendarmes, la douane, sans lesquels cette vente ne pourrait pas avoir lieu.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci d'avoir choisi RFI.
Où partent l'aurore dans ses bas gris, dans ses eaux bleues.
Radio France Internationale, au son de la musique des Français Marion Rampal et Bertrand Belin. De beaux dimanches.
Je suis offert, presque à ton bras, deux pas pour le bas. Sur le côté, passer lentement sous le ciel qui change. Je suis habillé sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche. Puis le reste en nous, ça tourne à travers le temps. Pourquoi le jour m'empêche un joli chien qui tôt matin me mord le bras, des yeux les parallèles, les suivre jusqu'au ciel et tourner mon nom. Ça n'était qu'un doux rêve, sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche.
C'est ainsi, avec les voix de Marion Rampal et Bertrand Belin, que se termine RFI Midi. Votre rendez-vous d'information quotidien réalisé aujourd'hui par Vincent Biteau. Merci à tous d'avoir été avec nous. Restez sur RFI. De vive voix commence dans un instant. Chantal Leroux reçoit Pascal Danaé, membre du groupe Delgrès. L'épopée